Plus de 4 milliards de barils dans les réserves sur la côte atlantique de la RDC. Pourtant, la production aujourd'hui est d'environ le dixième. Pourquoi cette faible production du pétrole et comment fait de la RDC un pays producteur? C'est les dossiers de la semaine. Activité économique est perturbée avec un manque à gagner pour les opérateurs économiques. Quelles sont les conséquences du manque du courant stable dans le nord Ubangi à la suite de l'arrêt du barrage des Mobayimbongo? Un reportage de Dominique Rolombé à suivre dans un instant. 1,5 milliard de dollars seront investis dans les 5 prochaines années. Zen se lance à la conquête de la République démocratique du Congo. L'entrepreneur de la semaine, c'est Mbayesi Lakuma. Il est directeur commercial de Zen en République démocratique du Congo.
Les infos économiques de la semaine.
Au moins 10 millions de dollars américains attendus dans l'opération de vente des vignettes au Katanga, selon le ministère provincial des Finances et Économie. L'argent recueilli a déjà permis de réhabiliter quelques routes dans la province. C'est depuis le 28 juin dernier que cette opération avait été lancée. De Celtel à Zen, l'entreprise de téléphonie mobile n'a pas été rachetée. C'est seulement la marque commerciale qui a changé. L'entité juridique est restée la même. Confirmation du directeur commercial, Celtel avait été déjà rachetée par le groupe MTC, une entreprise coréenne depuis 2005. Des centaines de milliers de dollars. C'est qu'a coûté ce changement de nom en termes de marketing pour Mbayesi Lakuma. Ce changement de nom présente plusieurs avantages pour l'entreprise et pour ses abonnés.
Le premier avantage déjà, c'est qu'en tant que groupe, ça permet de faire comment ce qu'on appelle des effets de synergie importants. Parmi ces effets de synergie, j'en prendrai juste un exemple. Par exemple, quand nous voulons développer des campagnes de communication, des campagnes de publicité, quand vous avez une marque unique, vous pouvez développer une seule campagne et tu vas faire le tour du monde. Et tout le monde va se retrouver. Pour les consommateurs, les avantages sont que quand vous êtes dans un groupe comme cela, il y a énormément de produits que des pays développent sur lesquels les pays frères ou les entreprises frères peuvent immédiatement jouer un effet de levier et en disposer et les mettre en application.
Autre avantage pour les abonnés, ils n'ont plus besoin du système roaming dans au moins 24 pays d'Afrique et du Proche-Orient où le groupe est présent, a assuré Mbayesi Lakuma que nous allons retrouver à la fin de cette émission. Libby Oil Holding Company, une compagnie pétrolière publique d'investissement en Afrique, a annoncé avoir remporté un contrat de 300 millions de dollars américains en République démocratique du Congo. Selon Ali Al Chamek, son chef de direction, en début de semaine, le contrat qui fait partie du plan d'expansion de la société en Afrique consiste à mettre en place des installations de stockage de pétrole, le contrôle des installations de stockage et des pipelines près des bananas sur la côte atlantique d'où partent les gazoducs pour évacuer le brut de la République démocratique du Congo. Un contrat a été signé en milieu de semaine entre le gouvernement congolais représenté par le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille et la société américaine Custom and Tax Consultancy, CTC en sigle. C'est là dans le but de la modernisation de la douane congolaise en vue d'une maximisation des recettes. Pour l'explication avec Deo Rubiza, ADG de l'OFIDA.
Nous aurons à nos côtés des consultants qui vont accompagner les efforts que nous déployons aujourd'hui de façon à mettre notre douane au diapason des douanes du monde. Juste un apport technique d'assistance au plan de gestion, tout simplement. En ce qui concerne le coût, je pense que ça ne devrait pas peser lourd sur les résultats économiques.
Le dossier de la semaine.
Gros plan sur la production du pétrole dans la côte atlantique de la RDC. Le premier congrès national sur le pétrole, gaz et exposition a révélé la présence de réserves importantes, mais une production faible, voire en régression. 350 millions de barils en 30 ans, 25 000 barils jour aujourd'hui. Pourquoi cette production faible ou en baisse? Qu'est-ce faire pour augmenter la production? Réponse dans un instant, mais d'abord, Jocelyne Moussa Opondé, où exploite-t-on le pétrole dans le Bas-Congo?
D'ailleurs, ce n'est pas toute la province du Bas-Congo qui contient du pétrole. Les études exploratoires ont révélé des gisements sur terre dans les littorales ou gisements onshore et des gisements dans l'eau, c'est-à-dire l'océan Atlantique, ou gisements offshore. Et selon le chef de production d'une entreprise de production, Perenco, pour l'instant, les gisements onshore sont étendus sur 86 km² sur le littoral. Et cet espace est divisé en trois concessions, la concession de Ismi Bale, de Yaoundé, Kinkanzi et de Mwanda Banana. Par contre, les gisements offshore sont contenus dans une seule concession de 1100 km². À ceci, il faut ajouter la zone d'intérêt commun entre l'Angola et la RDC. Ces deux pays ont signé dernièrement un accord commercial sur la production du pétrole. C'est dans des réservoirs souterrains situés à des centaines de kilomètres que se trouve le pétrole brut, c'est-à-dire le pétrole non raffiné.
Et qui sont justement les compagnies qui exploitent le pétrole dans le Bas-Congo?
Il faut dire, Nazaire, à ce jour, que seule la compagnie Perenco s'occupe de la production du pétrole. Elle travaille aussi en exploration avec d'autres sociétés partenaires. Perenco, une entreprise française, opère sous deux compagnies rachetées, Mwanda International Company, MIOC, en offshore, et REP en onshore. C'est depuis 1969 que la nouvelle convention sur l'exploitation pétrolière a été signée entre la RDC, MIOC et REP. Il faut aussi noter que Perenco a acquis ces deux blocs via des entreprises qui les avaient rachetés. Et c'est en juillet 2004 que Perenco a acquis MIOC, Mwanda International Oil Company, via Chevron, et REP en 2000, elle, via FINREP.
Jocelyne, vous parlez de la nouvelle convention signée entre les entreprises pétrolières et l'État congolais pour exploiter le pétrole congolais. Que dit cette convention?
La nouvelle convention signée en 1969 et qui régit l'exploitation du pétrole à ces jours est un contrat de concession. Cependant, ces contrats présentent plusieurs désavantages. C'est ainsi que l'actuel ministre des Hydrocarbures a initié un avant-projet de code des hydrocarbures. Ce dernier présente plusieurs avantages, ce qui n'était pas le cas pour l'ancien. Suivez les explications du directeur adjoint du cabinet du ministre des Hydrocarbures, José Bassard.
Vous allez trouver que les pays hôtes désignent, aujourd'hui c'est le pays qui va désigner la compagnie pétrolière comme opérateur sur une zone spécifique. Deuxième point, les pays hôtes, c'est-à-dire la RDC demeure l'unique propriétaire des hydrocarbures produits. Les coûts pétroliers financés par la compagnie pétrolière internationale peuvent être récupérés à partir de la production. C'est ce que nous appelons le cost oil. Selon un pourcentage convenu au préalable, c'est le quatrième point, la production après récupération des coûts est ensuite partagée entre les pays et la compagnie pétrolière. C'est ce que nous appelons le profit oil. Une chose aussi que je dois épingler, c'est que les installations sur les sites et les équipements deviennent une propriété de l'État dans l'avenir des 10 pays. Oui. Et l'autre avantage, les pays hôtes disposent d'une option de participation dans la production.
Qu'est-ce qui permet d'établir une telle répartition?
Vers le gouvernement veut cet avant-projet de code libéral, mais il fait en sorte qu'il défende aussi ses intérêts. L'État exerce donc sa souveraineté sur le sol et le sous-sol, mais prend en compte la nécessité du besoin d'investissement dans les secteurs. Il faut dire aussi que le secteur exige des gros investissements. Pour la production, par exemple, il faut creuser des puits. Le forage d'un puits peut coûter de 10 à 50 millions de dollars américains. Et il peut arriver que le forage rate la cible, ce qui signifie une perte de toutes les dépenses engagées. C'est donc des opérations à haut risque.
Jocelyne, les réserves pétrolières provisoires sont estimées à au moins 4 milliards de barils de brut et des millions de mètres cubes de gaz dans le bassin littoral ouest de la RDC. Mais à ce jour, 350 millions de barils ont été extraits. Qu'est-ce qui explique cela?
Selon le directeur adjoint du cabinet du ministre des Hydrocarbures, le ministère procède actuellement à l'audit du secteur pour connaître pourquoi cette faible production ou une régression en termes de production. La firme française KPMG qui audite a constaté quelques anomalies. C'est donc après des enquêtes sérieuses que les causes de cette faible production seront connues. Néanmoins, le secteur qui a été désorganisé est en cours de restructuration et les investissements mots conséquents font défaut. Écoutez le chef de production de Perenco, Hubert.
Nous avons des potentialités, nous allons faire des développements, et ça c'est parce qu'on n'a pas encore de riz, de riz de forage pour y aller, c'est des puits assez profonds, et nous on a besoin d'un riz d'au moins 2000 chevaux pour y aller. Or pour l'instant, nous ne parlons qu'avec un petit réserve. Donc il y a pas mal de potentialités, il y a déjà des réserves qu'on pourrait rester du contre ça, pour aller forer à tiendre dans le vermela et redévelopper le vermela qui est en commun un réservoir difficile, pour dans le plus là aussi au niveau de Tiendé, aller à Kikadi pour développer le vermela, il y a 5 heures qui produit en commun sur le vermela.
Et combien la RDC gagne dans cette production, Jocelyne?
En vertu des contrats de concession, les compagnies de production payaient des redevances superficielles pendant l'exploration, des redevances proportionnelles à la production ainsi que des impôts sur les bénéfices dégagés de l'exploitation. C'est pendant les 4 dernières années, depuis 2004, que la somme perçue du fait des taxes ont augmenté. 320 millions de dollars pour l'année passée. Et le gouvernement congolais, lui, croit pouvoir gagner plus que cela, surtout avec la mise en exploitation d'autres gisements. C'est d'ailleurs pour cela que l'audit du secteur est en cours et un avant-projet de code des hydrocarbures initié pour accroître le contrôle de l'État dans le secteur. Par ailleurs, une option a été élevée pour raffiner le pétrole en RDC. Écoutez à ces sujets le ministre des hydrocarbures, Mindéo Malanga.
Il y a une des résolutions ici qui demande que dans le code, nous puissions contraindre tous les acteurs dans l'amont pétrolier, c'est-à-dire les investisseurs, à prévoir dans les contrats qu'ils négocient avec nous un volet raffinage, c'est-à-dire que nous n'accepterons plus de contrats de partage de production dans des blocs significatifs sans que l'opérateur ne prévoie également un volet qui permette de raffiner la production ici même chez nous. Nous pouvons leur permettre de se mettre ensemble, deux, trois opérateurs pour une industrie de raffinage, mais nous ne donnerons plus de blocs sans qu'il y ait l'assurance que le produit brut qui sortira de là sera raffiné ici chez nous.
Et qu'est-ce que la RDC compte faire pour augmenter la production?
Encore une fois, l'audit initié devra permettre de déterminer la quantité du brut tiré des réserves de la RDC, de bien contrôler le secteur pour que le pétrole le rapporte un peu plus de la RDC. Et comme je le disais tantôt, le futur code des hydrocarbures se veut libéral, c'est-à-dire attractif des investisseurs. Sur la côte atlantique, l'entreprise Perenco a aussi annoncé plusieurs investissements dans la production. Beaucoup d'investissements. C'est aussi pour cela que le gouvernement se bat, a déclaré un expert du ministère congolais des hydrocarbures.
Les infos économiques en Afrique et dans le monde.
C'est ce samedi 16 août qui commence en Afrique du Sud le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC pour l'année 2008. Objectif, la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Le lancement de cette zone de libre-échange permet d'ouvrir un marché d'une valeur de 360 milliards de dollars américains et disposant d'une population de quelque 170 millions d'habitants. À titre de rappel, la mise en œuvre de la zone de libre-échange de la SADC a commencé en 2000 après la signature du protocole de la SADC sur le commerce en 1996. Le programme d'intégration régionale de la SADC comprend l'établissement de la zone de libre-échange en 2008, d'une union douanière d'ici 2010 et un marché commun d'ici 2015, ainsi qu'une union monétaire en 2016 et une monnaie unique d'ici 2018. Petit regard sur les marchés londoniens où les métaux stagnent dans leur difficulté entamée la semaine dernière. Les cuivres restent en dessous de 8000 dollars américains la tonne. Ce vendredi soir, la tonne de métal rouge est négociée à 7600 dollars. Le cobalt maintient sa mauvaise cotation de 64000 dollars la tonne contre 5000 dollars il y a 3 mois. L'étain se confirme en dessous de 20000 dollars la tonne, soit 19000 pour la soirée de ce vendredi.
Le reportage de la semaine.
Dès les stages et coupures intempestives du courant, de l'unique groupe électrogène des Badolités, les opérateurs économiques utilisateurs de l'énergie électrique accusent un important manque à gagner depuis l'arrêt du barrage de Moba Imbongo. L'unique groupe électrogène qui alimente présentement la ville n'arrive pas à supporter la charge de tous les abonnés. Dominique Molombe, Ngampagne.
Depuis l'arrêt du barrage de Moba Imbongo, suite au manque de pièces de rechange au niveau des turbines, la localité de Moba et la ville de Badolité sont alimentées par un des groupes électrogènes qui servent au démarrage de la centrale. Mais ces groupes électrogènes ne supportent pas la charge des abonnés, notamment des ateliers de construction métallique où la fréquentation des clients a sensiblement diminué. Témoignage d'Albert Mayanga, propriétaire d'un atelier de construction métallique.
Effectivement, nous ne travaillons pas convenablement. Aujourd'hui, le délestage est devenu un peu courant. Certaines fois, c'est tout vers 18h. Donc, nous constatons une rupture fréquente. Parfois, la rupture peut se produire pendant 18 fois pendant la nuit. Donc, vous voyez que les machines, certains appareils électriques qui fonctionnent, peuvent être mises en moule à cause de cette fréquence de rupture. Dans certains coins, les gens commencent à voler les câbles électriques qui sont déjà alimentés.
Non seulement il y a ces désagréments dus au délestage et aux coupures tempestives des courants, mais aussi il y a un manque à gagner pour les utilisateurs de courant. Entre autres, les propriétaires des ateliers métalliques qui voient leurs recettes diminuer, comme nous les confirment ces constructeurs métalliques.
Normalement, quand il y a eu des clients qui venaient à cette période-là, on recevait parfois, quelquefois par jour, on pouvait avoir 10 ou 15 dollars. Mais quand il y a eu rupture, tous les clients se sont retirés et les gens qui avaient le moyen à pouvoir les transporter leurs marchandises et les faire en dehors de la ville se rendaient plus à Moba que ici chez nous-mêmes au centre-ville. Et aussi, certains clients ont préféré aller se débrouiller de leur manière à l'extérieur de la ville de Bado.
Les mamans vendeuses de poissons frais ne sont pas en reste. Elles aussi se plaignent. Les courants de faible intensité qu'elles reçoivent maintenant ne leur permettent pas de bien garder leurs poissons dans des congélateurs. Une bonne quantité de leurs marchandises pourrissent avant d'être vendues. Cette situation décourage certaines vendeuses qui commencent à envisager de se lancer à un autre commerce.
Nous perdons des poissons pourrissent. Certaines parmi nous n'ont pas de quoi les faire sécher. D'autres se sont découragées, mais nous continuons encore avec ce commerce. Qu'on trouve une solution à ce problème de courant. Auparavant, nous pouvions garder au congélateur nos invendus. Maintenant, pas moyen, faute de courant.
La situation est devenue pénible pour les mamans vendeuses de poissons du marché des Badolités qui prennent du poisson à crédit auprès des pêcheurs à Mobaye pour les revendre à Badolités. Témoignage de cette vendeuse du pavillon 5 du marché central des Badolités.
Nous n'achetons pas cash. Nous prenons à crédit, nous n'avons pas de capitaux. Nous prenons à crédit à Mobaye pour revendre ici. Nos clients prennent aussi à crédit chez nous pour aller revendre à leur tour. Le reste, elles gardent dans des congélateurs. Depuis que le barrage est en arrêt, la situation est devenue difficile. Maintenant, nous accumulons des dettes. Si vous apprenez l'arrestation des vendeuses de poissons de Guado, ce sera suite à cette situation.
L'arrêt du barrage de Moba Imbongo a vu cependant proliférer des cabines de téléphonie et de recharge des batteries des portables à travers la ville de Badolité. Des cabines de recharge qui fonctionnent avec des petits générateurs électriques. Une activité génératrice de revenus à laquelle se sont lancés des jeunes gens pour aider les habitants des quartiers en délestage.
Matière première.
Relance la production du café dans l'Ituri. Plus de 7000 plantules déjà disponibles dans les germoires du bureau de l'Office national du café à Bounia vont être mises en terre très prochainement dans les plantations de Bounia et ses environs, puis dans les autres territoires du district. Ce reboisement vise à contrer la chute des productions provoquée par le gisement ou l'abandon des plantations, mais aussi les guerres et les maladies végétales ont eu raison de cette importante source génératrice de recettes pour les agriculteurs et les trésors publics. Élément de Delvin Waïsala, rendu par Suzanne Zobo.
Face à ces tableaux sombres, l'Office national des cafés amorce la relance de la cultures du café dans un premier temps à Bounia et ses environs. Ce programme ira ensuite sur toute l'étendue du district de l'Ituri. La relance consiste entre autres à distribuer des jeunes plantes plus résistantes aux maladies. Il s'agit de deux espèces de café robusta et arabica prélevées dans les villes de Beni et Butembo au nord Kivu. L'agronome technicien de l'ONC a précisé que ces plantules ne seront distribuées qu'aux planteurs identifiés et qui seront en mesure de bien les multiplier. Les premières récoltes sont attendues en 2012 et il espère produire près de 35 000 tonnes. Début 90, 40 000 planteurs étaient actifs en Ituri. Ils produisaient 18 000 tonnes de café par an, soit 6 millions de dollars américains. La Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et le Portugal étaient à l'époque les principaux acheteurs. La situation a beaucoup changé. C'est la contrebande qui gère le marché italien du café. L'Ouganda voisin profite de cette situation, selon le chef sous-secteur de l'ONC. Selon lui, cela est dû notamment à l'absence des opérateurs économiques locaux dans la filière du café et au manque de prêts bancaires pouvant permettre à ces opérateurs économiques d'acheter ces cafés dans le respect des normes de l'Organisation internationale du café. À ce jour, l'ONC n'arrive plus à évaluer la quantité de café produit dans ces districts. Toutefois, on estime encore la production à Mag et Djougou à 6 000 tonnes par année. 6 000 tonnes pour ces deux territoires avec près de 30 000 planteurs. Mais les entreprises d'exploitation n'existent plus comme autrefois.
Écho d'économie, vos questions et suggestions à echo@radiocapi.net.
Celtel Azen s'est depuis peu que l'entreprise est une marque mondiale. L'objectif reste la couverture totale de la RDC contre 40% actuellement. À la pointe de cet assaut de Zen en RDC, un homme talentueux, féru du business dans le multinational. La concurrence, c'est son sous-bras, Maesila Kuma, est directeur commercial de Zen. Il est l'entrepreneur de la semaine.
Beaucoup de gens, quand ils m'ont vu dans le métier du marketing, ont été un peu surpris. Je suis ingénieur agronome des eaux et forêts de formation de base. Donc, j'étais censé m'occuper de la nature. Donc, j'ai fait de l'agronomie à Montpellier, en France, et les eaux et forêts, donc, à Nancy. Ensuite, je suis rentré au Sénégal, j'ai travaillé pour le ministère de l'Agriculture. Après, j'ai fait un MBA. Et c'est quand j'ai fait le MBA que j'ai eu, donc, ce virus
de la... MBA, c'est-à-dire?
Une maîtrise de la gestion des entreprises, voilà. Et donc, ceci m'a amené immédiatement à me dire, bon, la fonction publique, c'était plus pour moi. Je crois que je n'ai jamais eu aussi la mentalité de fonctionnaire. J'ai jamais me mettre dans le moule du fonctionnaire. Et donc, immédiatement après cela, je suis parti chez Nestlé, au Sénégal, en Suisse, en France. Ensuite, je suis revenu au Sénégal. Je suis resté encore quelques années à Nestlé, au Sénégal. Ensuite, je suis parti à Coca-Cola, en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, au Burkina Faso. Après l'agronomie, le Master in Business Administration, l'entreprise privée. Et dans l'entreprise privée, j'ai fait les multinationales. Donc, j'ai eu une claire culture de ce que l'entreprise multinationale est, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, comment est-ce qu'elle fonctionne.
En quelques mots, votre tâche, ce que vous faites en tant que directeur commercial.
En tant que directeur commercial, je suis celui qui est censé faire en sorte que nous gagnions plus de clients par rapport à la concurrence. Que ces clients restent le plus longtemps chez nous par rapport à la concurrence et que ces clients consomment le plus de produits chez nous par rapport à la concurrence.
Et pour l'instant, comment vous évaluez la concurrence sur le plan commercial dans un pays émergent?
La concurrence, elle est de plus en plus vive, elle le sera. On nous annonce effectivement l'arrivée de certains opérateurs, c'est vrai, ils sont les bienvenus. Vous savez, la concurrence, moi, en tant que professionnel du marketing, je la trouve effectivement bien sur plusieurs rapports. Hein? Le fait d'avoir un concurrent vous oblige à vous surpasser tout le temps. Ça vous oblige à vous surpasser, un, pour définir ce qu'il y a de mieux pour le client. Parce que vous savez, la difficulté du marketing et ce qui est en fait en noblesse, c'est que le consommateur, il a le choix. Il a le choix de venir chez moi, ou d'aller chez Vodacom, d'aller chez CCT, ou chez Tigo. Et ceci, le fait que le consommateur ait ce choix, nous oblige à nous tous de faire tout ce que nous pouvons pour le garder le plus longtemps chez nous, pour le satisfaire, pour mieux le servir. Parce qu'en fait, le client qui est indépendant, qui a son argent, qui l'a gagné honnêtement, ben, nous, on n'était pas là quand il le gagnait, ben, il va effectivement là où il a le meilleur service, là où les gens s'occupent le mieux de lui. Et donc, pour nous, on ne doit pas avoir peur de la concurrence. Ça doit effectivement nous créer un sentiment d'être en alerte tout le temps, de nous rendre compte qu'il y a que le client qui est important et tout faire pour que le client vienne chez nous et quand il est chez nous, qu'il reste le plus longtemps possible et qu'il consomme nos produits. Donc, vraiment, moi, la concurrence ne me fait pas peur. Comme on dit, elle me stimule.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier?
Ce que j'aime le plus, en fait, ce que je trouve le plus stimulant, c'est qu'il n'y a rien. Ce qui était vrai hier ne l'est pas aujourd'hui. C'est que tous les jours que vous vous levez, il y a un enjeu, ce que les Anglais appellent un challenge, péage qui se met au travers de votre route et vous devez manœuvrer pour, parce que vous ne pouvez pas ne pas manœuvrer, parce que vous devez continuer. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très très le fait que tous les jours des anges nouveaux se mettent devant vous, que vous soyez un devoir de vous surpasser, de voir ce que la concurrence va peut-être faire, ce qu'elle va peut-être penser pour les mois qui viennent. Parce que ce que vous ne ferez pas, ben, la concurrence le fera, parce que les gens ont fait les mêmes études que nous, elles ont la même compréhension des logiques de marché. Donc, c'est celui qui fera le plus vite qui va également leur remporter la bataille. Mais ce que je sais qui est bien pour le consommateur congolais, mon homologue de chez Vodacom a certainement la même perception, ou en tout cas le même sentiment. Et ce que j'aime effectivement dans ce métier, c'est que c'est le marketing, en fait, c'est tout ce qui a trait à convaincre la personne humaine. Et comme me disait un de mes anciens professeurs de marketing, il me dit, en fait, ce qui est noble dans ce métier et qui a fait sa difficulté, c'est que même sur Terre, Dieu a envoyé plus de 26 000 prophètes pour nous dire qu'il existe. Il y a encore des gens qui ne croient pas. Donc, cette idée de dire tous les jours, je vais aller vers les gens pour leur dire que j'ai le meilleur produit, j'ai la meilleure marque, j'ai le meilleur réseau, et de savoir que mon voisin dit la même chose, ça, il peut s'agir de ma tête très bien, parce que ça nous oblige à nous surpasser et à reconsidérer tous les événements différemment au jour le jour.
Qu'est-ce que vous redoutez, vous, dans votre tâche?
Mais ce que je redoute dans ma tâche, c'est de décevoir le consommateur. Parce qu'en fait, le consommateur que vous décevez, c'est pas que vous allez peut-être le perdre, mais c'est que quand vous allez le perdre, il vous coûtera 10 fois plus cher pour le ramener chez vous. Et non seulement il va vous coûter très cher pour que vous le rameniez chez vous, mais il n'aura pas aussi raté l'occasion, chaque fois qu'on parlera de vous, de dire « Oui, mais moi, il m'avait fait ça, je vais jamais oublier. » Donc ça, ce que je redoute le plus, c'est de promettre à mon client, à mes consommateurs, quelque chose et de ne pas le faire. Parce que ça, dans notre métier, ça ne pardonne pas.
Et qu'est-ce que vous attendez de vos collaborateurs?
J'attends de beaucoup de loyauté à l'entreprise. Ce que je leur demande, c'est d'avoir, un, de croire en ce qu'ils font, d'aimer leur métier. Parce que pour faire un métier et bien le faire, un, il faut le connaître, savoir le faire, mais il faut aimer le faire. Quand ces deux conditions sont réunies, je m'évertue chaque fois de leur dire, aimez ce que vous faites, après l'avoir aimé, essayez de faire en sorte que vous agissiez toujours en professionnel. Soyez des pros. C'est-à-dire, un pro, c'est quelqu'un qui ne... L'amateurisme, en fait, c'est se confier sans se poser des questions. Un professionnel, même au football, surveille tout. Et quand vous avez regardé toutes ces questions et que vous rapportez les réponses idoines à ces questions, quelle que soit la concurrence, elle ne peut pas vous battre. Parce qu'en fait, c'est à ces questions que nous tous essayons de répondre. Et c'est celui qui répondra le mieux à ces questions qui sera l'entrepreneur, effectivement, de soi.
Merci Mbaye Silakouma, c'est avec vous que se boucle cette émission. Merci à Jocelyne Moussopondé, Dominique Wolomi, Delvin Waïsala et Suzanne Zobo qui m'ont aidé à la préparer. Prochain rendez-vous le samedi prochain avec le même plaisir.